found it fascinating.
Eh bien, bonsoir les amis, c'est Angelus Yodasson pour cette première chronique tech consacrée aux jeux vidéo. Alors déjà, je vais vous présenter qu'est-ce que la chronique tech consacrée aux jeux vidéo. Qui c'est qui va l'animer? Ce sera moi, généralement. On aura aussi, j'espère, et souvent avec moi, Pof, qui est là ce soir.
Salut à tous.
Et l'ami Gugus.
Salut, salut.
Et j'ai bon espoir qu'on trouve un jour un quatrième genre. Alors, quel thème on va aborder? On va aborder les jeux qui vont venir. On va essayer de vous parler un peu des jeux qui vont venir, des jeux qu'on est en train de faire, des jeux qui nous plaisent ou des jeux qui nous ont plu, comme aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure. Alors, quel jeu? À peu près tous les thèmes, parce que je pense que dans l'équipe, on est assez éclectique sur les jeux qu'on aime, que ce soit plateforme, shoot, frag, course de voiture et autres. Et quel support? Alors là, les supports, on va essayer aussi d'être assez multiplateforme, sachant que dans l'équipe on a deux clans, on a le clan PS3 avec Pof et moi, et le clan, si j'ai bien compris, un peu plus, même beaucoup plus Nintendo avec Antoine et Gugus. Voilà.
Oui, effectivement.
Voilà, ça se résume un peu à ça, même si on n'est pas sectaire et que j'avoue que si on me donnait une Wii ou une DS pour pas cher, j'en prendrais bien une. Alors, thème de la semaine, comme je vous l'ai dit, c'est un oldies. Alors, on s'est concerté un moment et on s'est dit quel oldies pourrait-on prendre. Alors, je vais vous donner un petit indice, attention, et est-ce que vous allez reconnaître? Attention, les gens de l'équipe n'ont pas le droit de jouer. Attends, mais toi, tu vas donner le titre en japonais tout à l'heure, alors tu vas moins faire le malin. Allez, je vous arrête là. Et oui, on va parler du génial, du fabuleux Zelda Ocarina of Time. Vous voyez, tout de suite, on n'est pas très, très objectif. Sachant que, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais le but de la chronique, c'est une chronique qui sera faite non pas par des journalistes, par des gars qui ont des cartes de presse, mais par des gars qui jouent, c'est-à-dire en gros des gens comme vous qui ont leur console chez eux et qui commentent un peu les jeux auxquels ils jouent. Voilà, et donc, comme j'ai dit, on va faire... The Legend of Zelda Ocarina of Time, dont le titre japonais est, vas-y Pof, fais le malin.
Zelda no Densetsu Toki no Ocarina, donc ce qui veut dire Zelda Zelda no, qui veut dire que c'est deux Zelda, Densetsu qui veut dire légende, et Toki qui doit vouloir dire temps, no qui doit dire donc du temps, et Ocarina qui veut dire l'Ocarina.
Et
c'est
oui, voilà.
Très simple.
En fait, oui, ça veut dire exactement à peu près la même chose. Alors, je vais vous recentrer, vous représenter un peu le jeu, pour recentrer le débat et qu'on vous montre de quoi on parle. Et en fait, c'est un jeu d'action-aventure développé, édité par Nintendo, forcément comme tous les Zelda avant et comme tous les Zelda qui ont suivi, sorti en 98 sur Nintendo 64. Alors ça a été une révolution dans la série des Zelda, on vous expliquera un peu pourquoi, mais surtout dans la mesure où ça a été le premier qui a été en 3D hein, sur la 64, et qui avait aussi la lourde tâche quand même de succéder à Link to the Past, le dernier sur Super Famicom, ou Super Nintendo, ou Super NES, hein, ça dépend où on se trouve dans le monde. Son succès, il a un peu tout éclaté, hein, ça a été la meilleure vente N64 en 98. Ça a été salué par le public, par la critique, sachant que c'est quand même un jeu qui a été souvent cité comme le meilleur jeu de tous les temps à l'époque par les magazines spécialisés, et il s'est même payé le luxe de rentrer dans le livre Guinness des records, The Guinness Book, voilà, qui n'a rien à voir avec une chèvre qui boit trop de bière, comme le jeu vidéo étant le plus vendu dans un court laps de temps. En gros, pour avoir ce privilège, en 8 semaines, il s'en est en effet écoulé 6 millions d'exemplaires dans le monde, soit la bagatelle de 80 000 le premier jour. Hein. D'ailleurs, moi j'avais pas pu l'acheter le premier jour, merci bien, parce qu'il n'y en avait plus. Hein. Donc et au total, il s'en est quand même vendu 7,6 millions de jeux. Et à noter que pour ceux qui l'avaient fait à fond, ils ont sorti une réédition qui est apparue au Japon, en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Europe sur GameCube, qui s'appelait Master Quest. En gros, c'était le même, mais plus dur, qui était livré avec le Zelda d'après, The Wind Waker, qui donc lui était sur GameCube. Et si jamais, au bout de la demi-heure que va durer cette chronique, on vous a vraiment donné envie d'y jouer. Soit vous rachetez une N64, mais bon, c'est un peu difficile en ce moment, il ne doit plus y en avoir beaucoup. Soit,
vous trouvez aussi la version limitée avec le Master Quest, parce qu'il n'y a pas que le Master Quest, il y a aussi l'original. Donc soit vous faites ça, mais il faut le retrouver parce que c'est super rare.
Puis c'est sur GameCube. Soit, si comme la plupart des gens maintenant, vous avez une Wii, il est disponible sur la console virtuelle depuis février 2007. Alors j'ai beaucoup parlé, donc je vais laisser mes acolytes un peu parler, en leur demandant eh ben, quelle a été vous votre expérience personnelle en fait par rapport à Zelda, comment vous l'avez découvert et en gros qu'est-ce qu'il a changé pour vous, pourquoi il vous a mis une claque ou pas d'ailleurs. Bah les Gugus.
À moi, bah allons-y alors. Bah en fait moi Ocarina of Time c'est un peu particulier parce que c'est quand même mon premier jeu vidéo. Enfin, c'est le premier auquel j'ai touché quasiment. Alors bon, c'était un peu une claque. Après, j'ai fait en même temps, parce que enfin, j'ai un parcours de joueur un peu compliqué, mais en même temps, j'ai fait aussi son prédécesseur qui était Zelda 3 sur Super NES. Et c'était vraiment une claque, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait jamais vu un truc pareil. De l'aventure à tout bout de champ et en, en trois dimensions sur une nouvelle console. Enfin, c'était juste énorme quoi. Le temps qu'on a passé dessus, les après-midi, même si c'était un jeu qui se jouait tout seul, les après-midi entre amis, etc. Enfin, c'était vraiment incroyable.
Pof.
Bah moi en fait j'ai découvert ce jeu là avec un ami qui m'avait prêté The Wind Waker. Il avait cette édition justement limitée qui avait donc le Master Quest et le jeu original, et même si c'était donc à l'époque de la GameCube, et c'était pas le jeu, c'est vraiment l'original dans cette édition limitée, et ils l'ont pas relissé ou quoi que ce soit, et j'ai trouvé quand même le jeu vachement beau pour l'époque. Parce que quand même, si on se remet dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas de jeu en 3D avec des. Enfin, c'était vraiment le tout début des jeux comme ça. Et puis, et c'est quand même un des meilleurs Zelda auxquels j'ai joué aussi.
Ah oui, bah c'est vrai que ça reste. On verra après, mais un des meilleurs Zelda à mon sens. Alors moi, je vais parler ma petite expérience. Moi, déjà, Zelda, c'est le comme Gugus, j'avais déjà fait le 3 avant, et le 3 c'est un peu le seul ou premier jeu où au limite j'en rêvais la nuit quoi. Donc forcément il y a un autre Zelda qui est sorti, j'ai fait je le veux, c'est pas une question, c'était une affirmation. Et donc comme je vous l'ai déjà dit, le premier jour j'ai pas pu le trouver parce que bon j'avais des occupations ce jour là, sorti trop tard, et le gars il a fait non il y en a plus, ah merde les boules. Et aussi c'est le seul jeu où j'ai vu la bande-annonce au ciné un jour en y allant quoi, et ça m'était sur le cul quoi, tu voyais Epona qui sautait par-dessus le pont et tout, et à la limite t'avais plus envie de sortir acheter le jeu que de voir le film après ou d'aller voir un des autres films qui était présenté quoi. C'était franchement ça m'était une grosse claque. Et en plus ouais, puis en plus on le verra plus ça dans la prochaine partie qui est la critique pure du jeu, en des termes un peu plus professionnels, on va essayer de vous faire ça les gars. Mais c'était quand même un monde super étendu, et voilà, c'était un peu, autant on avait l'impression que le Zelda 3, j'empiète un peu sur la prochaine partie, le Zelda 3 c'était un univers aussi super étendu, mais qui faisait vraiment jeu vidéo, autant là le passage à la 3D, limite on y croyait plus quoi. Enfin je sais pas ce que vous en pensez les gars, on va attaquer sur les graphismes hein, vu que j'ai un peu lancé la perche, au niveau de l'immersion.
Ouais. Au niveau de l'immersion, le graphisme.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus?
Ne serait-ce que dire que déjà, ouais, c'est pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était de la 3D qui était quand même assez, assez sympa, qui reste sympa parce que je l'ai réessayé il y a quoi, il y a pas longtemps.
Ok. Et,
Ocarina of Time. En version de, je vais pas dire comment. Et tu dis que pour un truc qui a maintenant 11 ans, ça reste pas mal quoi.
Ouais, ça reste.
Parce que quand tu vois ce que t'as, quand tu vois ce que t'as sur Wii, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils le ressortent sur Wii, c'est pas ridicule quoi.
Non, c'est juste qu'ils ont fait plus d'arrondis, etc. Mais sinon, même au niveau des textures et tout, je trouve que c'est quand même, c'est pas super moche. Franchement, il y a des trucs sur DS qui sortent là récemment qui sont beaucoup plus horribles que ça, où il y a que la 3D est mal finie, que c'est dégueulasse de partout. Alors que ça rend vachement bien. Je trouve que le jeu est vachement soigné pour l'époque.
Gugus.
Bah oui, de toute façon je rejoins Pof là-dessus. Après faut se dire aussi que par rapport à un jeu DS qui est mal fini et ce Zelda qui avait mis je sais plus combien de temps à être développé d'ailleurs, peut-être quelque chose comme au minimum 3-4 ans, 4 ans peut-être.
Ouais je crois que c'est ouais, je crois que même c'est un minimum. Ouais. Bah si, il est arrivé déjà 6 ans après le Zelda 3
ouais,
quoi.
Ouais, donc là ouais, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà qu'ils avaient les. Ils avaient un début de 3D avec les premières cartouches avec des puces 3D qu'ils avaient mis pour la Super Nintendo comme donc Star Fox.
Oui, là avec comment il s'appelle c'est mode 7 puis le mode FX, hein, le 3D voilà, FX, un truc comme ça.
C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Et en fait, donc j'imagine qu'ils avaient déjà, ils s'étaient déjà penchés un peu dessus parce qu'ils avaient déjà fait trois Zelda. Il y avait donc ensuite des épisodes Game Boy qui étaient en suspens. Alors, je pense que ça a duré vraiment longtemps. Ils ont eu le temps de maîtriser tout ça. Puis quand on voyait les premières images qu'on nous donnait, enfin, c'était à l'époque, c'était pas encore non plus de la grande information par internet, mais quand on avait les quelques images des magazines, etc., c'était des images alpha, pré-alpha, bêta. Là, par contre, on peut dire que c'était vraiment pas fini. Je pense que avant la sortie, il y a eu un travail énorme sur tout ce qui est texture, même si je le dirais dans la critique un peu plus poussée à la fin, que avec le recul, on peut se dire maintenant que c'était pas tout le temps une constante dans le jeu, mais enfin voilà.
Ben non, tu peux. Oh, non, on est dans le graphisme, donc je pense que tu peux enquiller sur ton.
On enquille, bon
Ouais,
bah
tu
voilà.
peux, ouais.
Bah en fait, oui, c'est-à-dire qu'il était bien fini, mais c'est vrai que à quelques moments, on sentait qu'au niveau des, surtout des textures, en fait, au niveau de la modélisation, c'était toujours, de toute façon, c'était vraiment constant, mais au niveau des textures, il y avait je me souviens, quelques passages qui n'étaient pas non plus à valeur égale. Alors après, on peut toujours oui, c'est pas très grave, quoi, qu'il y ait quelques passages qui soient comme ça, pas super fini, mais en règle générale, c'était assez bon, surtout pour l'époque. Alors après, je sais pas, c'est peut-être par rapport à après peut-être des limites techniques. Faudrait voir ce que ça donne avec un expansion pack. Peut-être c'était des limites, surtout quand on voit ce qu'ils ont fait après avec Majora's Mask et l'expansion pack, justement. Je pense que c'était une limite quand il y avait des textures qui étaient pas très bonne, surtout quand on la voyait de très près. Et ben c'était peut-être parce qu'il y avait beaucoup d'effets autour ou des choses comme ça, donc j'imagine qu'avec le second sur Nintendo 64, ils se sont un peu rattrapés avec l'expansion pack qu'ils avaient sorti juste avant.
Parce que c'est vrai que si ma mémoire est bonne, maintenant que tu le dis, il y avait aussi, quand on est un peu dans la critique technique, quelques effets de collision qui n'étaient pas super heureux aussi. Avec des.
Ouais, bah tant ouais, allez, enfin,
Oui, non, mais
c'est
pas.
ça,
Oui, non, mais c'est vrai
après,
que
c'est
ma,
toujours.
à l'époque, maintenant on est un peu tatillon, mais je veux dire, à
Oui,
l'époque,
quand même,
tu le voyais, tu
on
pleurais quand même un minimum, quoi.
ouais, non, on est tatillon quand même, mais la seule chose, c'est que de toute façon, les effets de collision, ça n'a jamais été vraiment quelque chose de très réalisable, on va dire. N'importe quel objet rentre dans un autre, de toute façon, en 3D. Alors, on a après des moteurs à la GTA 4, mais là, on arrive quand même à des temps beaucoup plus proches. Alors, bon. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui, pour l'instant, auraient un moteur physique vraiment à toute épreuve. Pour moi, dans n'importe quel jeu vidéo, je trouve ça normal qu'un modèle rentre dans un autre. C'est pas non plus à se tirer une balle, mais bon, là, peut-être que aussi à l'époque, c'était un peu plus limité.
Et c'est vrai que je suis en train de me regarder dans le plan, parce que je vous avoue, les gars, on a bossé quand même un peu dessus. On n'a pas parlé, parce qu'on fait les gros geeks, là, on parlera après du gameplay, parce que je pense que ça va venir argumenter, ça va venir servir ce dont je voudrais qu'on parle maintenant, c'est-à-dire l'histoire. Parce qu'on n'a pas absolument pas parlé de l'histoire, en fait.
Justement, je voulais en reparler. L'histoire est quand même super complexe et tout. Et ça, moi, j'avais jamais vraiment joué à un Zelda, enfin, à part Wind Waker, vu que j'avais joué quand même à Wind Waker avant. Et par rapport à Wind Waker, qui est quand même une version vachement simple de Zelda, même si c'est un bon épisode quand même, ça m'a foutu une claque parce que Zelda, c'est quand tu le prends avec Ocarina of Time, tu te rends compte que c'est vachement complexe, que il faut quand même faut quand même y penser, quoi. Je sais pas si
Si, si.
Si, si, bah.
L'histoire se suit bien, en fait, mais c'est ça, il y a vraiment une vraie histoire. Pas de jeux vidéo qui ont un scénario complètement bidon.
Bah, c'était de toute façon, moi je vais réagir dessus, mais c'est, bah, de toute façon, c'est assez bien distillé. Je pense que c'est un peu une constante dans tous les Zelda. Même tu parlais de The Wind Waker, mais ça fait partie de la génération de jeu, c'est-à-dire que bon, là, à partir du scénario et de la chronologie, entre guillemets, parce que les Zelda, la chronologie, faut y aller. Mais ça fait partie des jeux assez récents on avait eu toute une vague comme ça sur GameCube, où il fallait en fait creusé dans le jeu, c'est-à-dire que si on faisait l'aventure de tout droit, on n'avait pas grand-chose sur le niveau de l'univers. Et dans The Wind Waker, je pense que c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps à parler avec tout le monde, à aller lire un peu tout ce qui est marqué partout. Ocarina of Time, c'était très bien distillé, c'est-à-dire que donc comme le jeu était assez long, ils avaient eu le temps de mettre un peu tout mettre, et il y avait de tout, c'est-à-dire qu'il y avait l'histoire de base avec qui était quoi, qui venait d'où, était quoi, faisait quoi, et en même temps des grosses références à tout un univers, c'est-à-dire par exemple, je l'ai revu très récemment d'ailleurs ça. On dit à Link qu'il est un Illien, donc ça soulève plein de questions, etc. sur le passé de la carte, enfin de la carte qu'on a dans ce jeu-là, par rapport aux Illiens, aux hommes, etc.
Oui, puis par rapport aussi à toutes les races qu'ils introduisent quand même aussi dans le jeu-là.
Voilà, c'est ça, exactement. Et il y a beaucoup de choses qui sont. Après, il y a surtout des quêtes annexes qui expansent un peu tout ça. Oui, expansent, ça s'est dit, je sais même pas.
Je sais pas.
Oui, ça me paraît bizarre, mais bon, c'est pas grave. Après, donc voilà, c'était assez bien distillé, est-ce que c'est quelque chose qui s'est perdu au fil du temps, j'en sais rien. À force de vouloir trop en faire, ou alors de vouloir justement simplifier tout au possible. Mais n'empêche que dans les épisodes plus récents, comme sur Wii avec GameCube et Wii, Twilight Princess, c'était aussi assez complexe. Donc voilà, après lui, on va dire qu'Ocarina of Time est bien dans la lignée des Zelda et de leur histoire.
Mais c'est vrai que ouais, moi ce qui m'avait marqué aussi sur ce Zelda justement, c'est comme je l'ai déjà un peu dit, l'apparition justement de toutes les races pour avoir fait le 3 avant, où c'était assez humano-centrique, ou en tout cas human-like centrique, c'est-à-dire tout ce qui était de bras, de jambes, mais qui ressemble à un humain. Là on avait par exemple les auras, ou on avait les Gerudo, je crois, qui mangeaient leurs choupetteurs et leurs trucs comme ça, où t'avais vraiment une expansion de l'univers et tu rencontrais plein de races que t'avais pas vues avant. Il y avait qu'une flopée de personnages secondaires qui restent encore énormes, quoi. C'est-à-dire comme le fermier, les choses comme ça, les...
Bah, je dirais que, enfin, en fait, je vais dire oui et non, parce que de toute façon, on avait tout de suite un panel d'explications beaucoup plus élevé avec la mémoire qu'il y avait dedans, je pense, et le temps qu'ils avaient mis là-dessus, les interactions qu'on pouvait avoir aussi. Mais par exemple, tu reprends l'exemple du 3, les auras étaient là. Les auras, c'était juste les petits ennemis qui sortaient de l'eau et qui te balançaient des bombes d'énergie.
En fait,
le truc, c'est qu'à l'époque, on le savait pas, c'est-à-dire que
on savait que c'était important, non?
Non.
Oui, et à part te filer les palmes, ils n'avaient pas un rôle aussi important dans Milan. Oui.
Voilà. À l'époque,
tu ne le savais pas, quand même.
Enfin, si, tu le savais, mais à l'époque, tout était dans les manuels, si je me souviens bien. C'est-à-dire que tout le background du jeu était dans le manuel.
Le truc que personne ne lit jamais, quoi.
Voilà, c'est ça. Et en fait, les univers, je pense que c'est grâce à la mémoire et puis au temps et aux réflexions sur les productions de jeux, au fil du temps, ils ont pu, dans des séries qui étaient déjà très vieilles, instaurer plein de détails, etc., qui construisaient un univers. Donc Zelda en fait partie, et donc ils ont pu, avec ces générations-là, tout de suite faire interagir avec tout le monde, remettre toutes les idées qu'ils avaient eues, mais en cette fois-ci, en les expliquant, quoi.
Et qu'est-ce que je voulais dire ? Eh bien, oui, par rapport à la chronologie de Zelda, c'est vrai que c'est un petit peu étrange. On a plutôt l'impression que à chaque fois on est projeté dans, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau Zelda, on se retrouve dans une époque qui est beaucoup plus loin après, mais ils en sont toujours au même niveau, ils ont pas bougé, et c'est juste qu'à chaque fois on se retrouve avec toujours un vieil héros qui avait une tunique verte, etc. Etc.
Le problème, c'est que il y a beaucoup d'univers qui sont comme ça. Zelda, c'est un peu un mystère parce que il y a aucune chronologie officielle. Enfin, il y en a quelques-unes par rapport à, par exemple, Wind Waker.
À part celles qui te mettent dans le jeu, d'ailleurs.
Bah oui, c'est-à-dire qu'on sait que comment il s'appelle, Phantom Hourglass, c'est la suite directe de The Wind Waker.
Oui,
bah
voilà.
On sait que
ça doit être quelque chose qui a été fait après.
On sait que Majora's Mask, c'est après Link to the après Ocarina of Time aussi.
Oui, normalement si. Mais en fait, Wind Waker, on sait que c'est après, c'est-à-dire que c'est comme si on te présentait le dernier épisode. Et d'imaginer après, puis qu'ensuite on te... Enfin, c'est... Comment dire, je sais pas si vous voyez la fin de Twilight de Wind Waker, mais c'est très... C'est très... Alors, on a... ou pas. Et puis maintenant, on a un futur avec des jeunes pousses qui ont tout à reconstruire. Et en fait, on vous présente le dernier épisode avant de vous présenter le milieu. En gros, c'est le dernier, c'est-à-dire que l'imagination vient après. Mais les autres, il y a beaucoup de chronologie de fans. Alors, le rôle important de cette Ocarina of Time, ce serait que dans toutes les chronologies, souvent, c'est qu'il sépare une sorte d'axe imaginaire, parce que c'est qu'imaginaire pour l'instant de toute façon, en deux, par rapport aux deux dimensions, par rapport au temps. La seule chose, c'est que il y a beaucoup d'autres Zelda qui utilisent le temps. Il y a des Zelda où il n'y a pas Ganondorf, il y a des Zelda, enfin voilà, on a une chronologie, après voilà. Elle est discutable.
Attends, je vais vous couper là-dessus en fait, parce qu'il nous reste pas des masses de temps, et je voudrais qu'on aborde deux points avant de faire les anciens combattants pour conclure. C'est qu'on parle du gameplay justement, parce que qui était quand même, qui apportait quand même vachement de trucs justement, en passant de la Super Nintendo à la N64, et surtout qui est apporté par le changement de pad, quoi, de manette, avec toutes les possibilités offertes par celle de la 64, quoi. C'est-à-dire où tu avais cette fois une pléthore d'armes qui était déjà plus ou moins présente dans les Zelda précédents, comme le grappin, le boomerang, les choses comme ça, mais qui était à mon sens beaucoup mieux utilisée. Et une aussi, la grosse différence de gameplay qui était pas mal utilisée dans le jeu et qui nous mettait un peu une claque quand on essayait, c'est que c'est la première fois où on montait à cheval, avec la fameuse Epona d'ailleurs.
Oui, le gameplay, enfin, pour moi, était parfait, mais
je pense que ça, enfin, à mon sens, c'était une grosse progression par rapport aux trois, quoi.
C'est une progression, de toute façon,
avec le C-pad, les trucs comme ça, avec la possibilité d'assigner énormément d'objets.
Où tu pouvais vraiment te faire ton arsenal et ton truc comme tu voulais, quoi.
T'as pas besoin de retourner à ton inventaire toutes les deux secondes.
On avait quelque chose de beaucoup plus souple, d'aussi beaucoup plus réaliste, oui, en partie. C'est-à-dire que quand on avait le bouclier, on le sortait avec le bouton R, on avait différents coups d'épée, puis on pouvait tout de suite enchaîner sur un objet qu'on avait assigné, etc. On avait cette visée aussi, qui était discutable, mais qui était là. Tout était très bien géré, c'est-à-dire que tout le jeu était fait.
Par rapport au gameplay, il y a justement, je trouve, une régression dans le dernier sur Wii, parce que la maniabilité sur Wii est pas terrible, parce que la manette est pas très bien faite en fait, vu qu'on a plus qu'un bouton A, B, et sinon ils utilisent la croix directionnelle. Et le problème, c'est qu'il faut avancer la main pour appuyer sur la croix directionnelle, donc c'est pas aussi maniable que sur une manette de GameCube ou de Nintendo 64, je pense.
Je veux dire que je suis le défenseur de la manette Wii, mais je sais pas comment vous faites, vous avez des petites mains ou je sais pas, mais j'arrive très bien à avoir tous les boutons en main, quoi. Les boutons 1 et 2 sont quasiment jamais utilisés, mais dans Zelda, pour assigner des objets, si, un peu, mais je sais pas, je joue à Super Smash Bros. Brawl avec une manette Wiimote et un Nunchuk, et je saute avec le bouton bas de la croix directionnelle.
Oui, mais le bouton bas, oui, ça va, il est facile à accéder, mais je veux dire...
Les autres, non. Le haut, d'accord, le haut, il faut pouvoir le virer sur d'autres actions moins nerveuses, mais dans l'ensemble, enfin voilà, c'était juste une petite digression. Hop,
voilà, et justement, comme il nous reste plus de temps et qu'on va essayer d'arrêter les digressions, hein. C'est que je voudrais avoir au moins un ou deux souvenirs à chacun des grands souvenirs de jeu, parce que tous les trois on l'a fait là. Et un des souvenirs qui vous reste, quoi, de jeu là. Bon, me dites pas la fin, bien sûr. Hein.
Non.
Vas-y, Julius.
Je vais pas dire la fin.
Non, pas la fin.
Sauf la fois où on s'était éclaté avec un Rumble Pack à mettre une manette de 64 par terre pour qu'elle fasse tout le salon quand la tour s'écroulait, mais c'est tout. Mon plus grand souvenir, peut-être que c'est la traversée du temps. Avec le temple du temps et l'épée qui servait vraiment à quelque chose là, enfin qui servait à quelque chose, qui avait vraiment une symbolique vraiment forte. Et puis quand on était petit, on voyait Link qui retirait l'épée et puis qui devenait grand.
C'était
mon souvenir à moi, ça.
Ouais, mais je pense que c'était le souvenir de tout le monde, parce que moi je l'aurais dit aussi, donc. Ouais. Mais bon, j'en ai un autre en réserve, donc.
Et eh ben, ouais. Eh ben moi écoute je sais plus quoi dire donc
ben moi je suis
le jour où sortait les parties de tennis avec Ganondorf hein.
c'est ce qui m'avait marqué aussi. Et puis juste après quand on sort de ce temple avec des espèces de zombies là, qui se retrouvent sur la place alors qu'avant il y avait la place hyper animée avec tous les gens et tout et là tout d'un coup tu te retrouves dans un monde qui reflète la mort à fond quoi.
qui est même limite plus flippant que le monde parallèle justement du Zelda 3 quoi.
Bah, le monde de Zelda 3 c'était plus quelque chose de malsain, pas quelque chose de vraiment dévasté. Enfin dévasté en tout cas, en même temps il n'y avait que le village qui était vraiment dévasté, donc enfin voilà. Enfin que la ville d'Hyrule était vraiment dévastée.
Mais ouais, un de mes grands souvenirs moi aussi c'est justement en plus l'extrait que j'avais vu au cinéma qui m'a mis sur le cul, donc j'ai pris un kiff énorme à le faire. C'est pour ceux qui connaissent le jeu ou qui vont le faire d'ailleurs grâce à nous, c'est quand tu sautes le pont en fait, c'est que pour le premier coup tu vas au village Gerudo. Oui, je crois que c'est les Gerudo dans le désert. En fait, il y a un pont qui est cassé, que tu es obligé de sauter à cheval. Et franchement, moi, c'était trop mon kiff de sauter ce pont à chaque fois à dos de cheval et Yahoo. C'était entre le Zoro, le Zelda et le Chevalier Servant. Et c'était trop kiffant. Surtout que la première fois, tu avais une belle animation et un effet de caméra qui faisait que le truc était assez trippant. Quoi.
Donc, on a vu à chaque fois, sautait, quitte éteignait sa console, la rallumait, sautait, éteignait, rallumait.
Il y a la même chose aussi quand on, en quelque sorte, vole Epona, même si le gars il l'a parié, il l'a perdu. Et on doit sauter par-dessus la clôture pour pouvoir s'enfuir parce que le gars il est mauvais perdant, il veut pas nous laisser partir.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et on saute par-dessus la clôture et là aussi il y a un joli effet, on arrive sur la plaine et tout, et puis il est tout content, il y a la musique.
Et il y a petit.
C'est classe aussi.
Il y a un truc qui m'aime plus dans la série marrant, c'est si vous le gars qui est en haut du clocher dans le village Cocorico là, qui fait un petit clin d'œil, qui fait ouais je suis le roi du monde quand il est en haut de son truc en pleine période Titanic, j'avais trouvé ça assez drôle.
Oui, effectivement. Je sais pas pourquoi si c'est le dialogue qu'ils ont.
Et aussi la musique du moulin aussi.
Ah bah oui, la musique avec le gars et sa machine à.
Oui, alors ça non, je vais pas partir là-dessus, mais non voilà. Non, bah, oui. De toute façon, pour moi, toutes les musiques sont super, mais celle-là, oui, celle-là.
Voilà. Et dans les 2 minutes 50 qui nous restent, je vais juste vous demander votre meilleur avis. Votre meilleur avis. J'ai mangé ma question. Votre avis sur est-ce déjà le meilleur Zelda ? Attention, on a 2 minutes 30 pour le faire. Et voir est-ce, a posteriori, pour ceux qui l'ont eu ou qui l'ont testé, le meilleur jeu sur N64 ?
Alors,
sachant qu'il y a plein de gens qui l'ont dit à l'époque, ouais, c'est le meilleur jeu de all the time, de tous les temps.
Oui, on va dire qu'il a vraiment marqué son époque, ça c'est indubitable. Après, le meilleur jeu de la 64 peut-être, ça dépend de ce qu'on aime, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons jeux sur N64. Et puis le meilleur Zelda, après ça dépend aussi, mais je pense que Zelda 3 lui arrive vraiment à la cheville. Lui arrive vraiment très très près. Ça dépend des gens aussi, mais c'est vrai qu'il a marqué son époque et il va avoir du mal à se faire oublier. Enfin voilà.
Pour moi je dirais le meilleur Zelda de ceux que j'ai joué sûrement parce que j'en ai pas joué énormément malheureusement et le meilleur jeu de N64 étant donné que les seuls jeux que j'ai eu pendant la courte période où j'ai eu une N64 c'était Astérix et un truc genre Formula 1 ou je sais pas quoi
oui forcément
oui forcément c'était le même jeu. C'est le meilleur jeu
ouais pour moi
il faut noter que j'y joue sur émulateur je sais pas si c'est très bien de le dire,
c'est pour ça que je voulais pas le dire tout à l'heure.
sur émulateur on peut avoir des magnifiques cheat codes qui permettent de faire léviter Link et c'est très marrant. Et d'ailleurs, il y a des endroits où on se demande comment il ferait pour y aller s'il ne pouvait pas l'éviter. Par exemple, le toit du...
avec le grappin, monsieur. Porte,
non, la porte du pont-levis du château et tout. Je ne sais pas si on peut y aller juste au-dessus du pont-levis. Ah, et bien, en fait, pas. Là-haut, il y a un rubis.
Ah.
Alors ça, je ne sais pas si on peut y aller sans l'éviter. Parce que je l'ai trouvé par hasard en montant sur la porte.
S'ils l'ont mis, je pense que tu peux y aller sans tricher, mais bon. Alors juste pour dire que...
Ah bah, savoir.
Justement, ce que je voulais dire... Oui, juste donner mon avis, hein, si ça vous dérange pas. Non mais... c'est non. Que... Ouais, non, moi c'est clair que pour un monde sans, c'est le meilleur Zelda, en tout cas de ceux que j'ai fait. J'avoue que j'ai pas fait Twilight Princess. Et j'ai beaucoup aimé, comme tu disais, Zelda 3. Mais je pense que justement avec le 64, ils ont réussi à faire tout ce qu'ils auraient voulu faire dans le 3 et qu'ils pouvaient pas faire à l'époque, quoi. Enfin, c'est un peu l'impression que j'en ai eu, quoi. Tu reprenais beaucoup d'éléments et que dans la série, ce coup-ci, on peut le faire. On aurait voulu le faire dans le 3, du coup, on le fait là, quoi. Et est-ce que c'est le meilleur jeu de la N64? Pour ceux que j'ai eu, moi aussi, pourtant j'en ai eu pas mal, enfin, j'en ai eu une dizaine, je pense au moins. Pour moi, ouais, dans le sens où ça aussi ça reste un Zelda, et que je suis un grand fan des Zelda, même si j'ai pas tous pu les faire. Mais donc ça aide pour beaucoup. Donc voilà, on va conclure ce débat en disant que ben on espère qu'on vous a donné plaisir avec nos vieux souvenirs de guerre. Que si vous voulez vous faire plaisir, et ben si vous aviez une Wii, allez sur la console virtuelle, et qu'on espère vous retrouver bientôt dans une prochaine chronique sur les jeux vidéo.